R22 tout le monde, antenne des lendemains hybrides.
Donc je m'appelle Michael Stora, je suis psychologue, psychanalyste, j'ai 52 ans. Je ne suis pas né avec les jeux vidéo, mais évidemment il m'est arrivé de jouer et de découvrir ce nouveau média. C'est un petit peu la porte d'entrée qui m'a amené à réfléchir sur les mondes numériques, de me rendre compte qu'il y avait une évolution impressionnante et naturelle dans notre rapport aux images. Donc, en effet, en 2000, j'ai fondé l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. J'en ai assuré la présidence et à partir de ce moment-là, il fallait créer un club, de chercheurs en sciences humaines. Je me suis retrouvé, avant d'avoir travaillé pendant plus de 10 ans en psychiatrie adulte et avoir animé un atelier cinéma, parce que j'ai une formation de cinéaste avant d'être psy, et dans le cadre d'un centre médico-psychologique à Pantin, pour enfants et adolescents, j'avais lu évidemment tous les grands livres, Winnicott, Melanie Klein, et je me suis rendu compte que les enfants que je recevais ne me donnaient aucun contenu, ils ne dessinaient pas, ils ne parlaient pas, ils ne jouaient pas. Et à partir de ce moment-là, je me suis demandé si c'était moi qui m'ennuyais ou si en effet ils étaient limités, pour assez vite comprendre qu'ils avaient peur, terriblement peur, de me donner quelque chose, de mettre en scène leurs fantasmes, et que donc il fallait trouver finalement une médiation. Je crois que c'est aussi cette vocation-là de pouvoir trouver un espace où ils puissent faire comme si. Et j'avais moi-même joué aux jeux vidéo. Bon, j'avais joué à un jeu qui m'a, comme on dit, mis une claque, qui s'appelait Deus Ex de Warren Spector, où j'ai pu prendre conscience de la puissance immersive et de la narration dans laquelle on était acteur, interacteur. Et j'ai pensé, pourquoi pas amener les enfants à jouer à des jeux vidéo. Avec des grandes résistances de la part de l'institution, mais néanmoins j'ai réussi. Et à partir de ce moment-là, j'étais comme dans un laboratoire, à essayer de comprendre comment travailler avec eux. Et là, j'ai créé donc un groupe et j'ai commencé à soigner en utilisant cette médiation numérique que sont les jeux vidéo. Toutes sortes de jeux vidéo, évidemment les plus connus, ICO, Fable, les Sims et beaucoup d'autres jeux. Et finalement, il m'arrive encore dans le cadre du cabinet, où j'ai en effet une télévision et quelques consoles de jeux, de proposer à certains moments à l'enfant ou à l'ado de jouer après avoir parlé, parce que je me suis rendu compte que là où c'est une nouvelle manière d'envisager les choses à deux, c'est que lorsqu'on a la manette dans les mains, on peut parler aussi. Et il arrive qu'à ce moment-là même, ils me disent des choses, parce que je continue à être un psychanalyste, même d'adolescent, et parfois c'est aussi un moyen pour eux de pouvoir me dire ou de me montrer des choses dans les choix qu'ils vont faire. La complexité dans la médiation numérique, c'est d'analyser ce qu'il en est de ce langage spécifique qui est celui de jouer dans un jeu vidéo. Et j'ai toujours pensé qu'il pouvait y avoir des rencontres entre l'histoire du patient et l'histoire que proposait le jeu. Et finalement, pour me dire que le jeu avait un espace qui était proche du rêve arrangé, comme le dit Ferenczi, on est dans un espace très onirique, une sorte de narration sensorielle où finalement il est possible d'affronter quelque part les monstres qui sont en eux, des monstres qui sont souvent, disons les choses, le monstre de la culpabilité, et qu'au fond, à l'image d'une psychothérapie, bien c'est un espace d'affrontement, c'est un espace de répétition puisqu'on perd, donc on répète quelque part cette répétition du combat, de l'élaboration, sorte de peut-être de lien entre la perlaboration, comme on dit en psychanalyse, et répéter finalement quelque part la même situation et la redire avec des portes d'entrée différentes. Et le jeu peut étonnamment avoir cette vertu, c'est-à-dire parce que je perds, à l'image du fait qu'on apprend à nos patients à perdre, de pouvoir revenir et de répéter. Donc je dirais que je continue à comprendre des choses selon même mes patients. Et le choix des jeux qu'ils vont avoir, mais aussi, par exemple, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec des groupes, de leur proposer des jeux en mode coopération, comme Call of Duty en mode coopération, où pour avancer dans le jeu à deux, à un moment, on n'est plus dans la rivalité, puisque si mon coopérant est en train de mourir, je dois le soigner pour avancer. Donc voilà, il y a des astuces que le jeu vidéo nous propose, dont la vocation première n'était pas celle-là, bah, qui peuvent avoir des vertus thérapeutiques. La définition du serious game est d'être un jeu vidéo dont la vocation est sérieuse, pédagogique, de simulation, pourquoi pas thérapeutique. Le serious game est construit par un studio. Le serious gaming, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire l'utilisation d'un jeu vidéo à des fins sérieuses. Pour le moment, on voit apparaître dans notre domaine qui est la psychologie des serious games, et je dirais que j'en vois aussi les limites. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez étonnant de se dire « Tiens, je vais pourquoi pas inventer un jeu vidéo pour soigner ?» Et c'est vrai que je crois qu'on ne prend pas assez en compte le contexte dans lequel je joue. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le fait de jouer. ICO, que j'ai énormément utilisé avec des enfants dans une problématique dépressive, n'avait de sens que parce que c'était dans un groupe où ils pouvaient échanger, partager leurs émotions. Alors que jouer seul à la maison, ça n'aura pas cette vocation. C'est là où il y a les limites. Après, quand on est dans le détail des jeux à vocation thérapeutique issus du serious game, on se rend compte pour le moment que ce qu'on nous propose est terriblement comportementaliste. Alors, je trouve ça tout à fait intéressant. Il ne s'agit pas de rejeter la thérapie cognitivo-comportementale, mais je me rends compte qu'à quel point il nous manque de la métaphore. Il nous manque de la poésie, il nous manque de la narration. Au fond, le gros problème, c'est que peut-être la prochaine génération, ça ne sera plus des serious games, mais des serious play, qui se rapprocheront beaucoup plus du psychodrame, quelque part, et qui permettront véritablement de reprendre ce que nous ont montré les jeux vidéo. L'autre grand problème des serious games, c'est que l'expérience dure peu de temps. Une demi-heure, trois quarts d'heure, grand maximum dans la plupart des serious games, c'est pas suffisant. Ce qui fait qu'il y a des sentiments et des émotions dans le jeu vidéo, c'est que ça dure. Je partage pendant un an la vie de mon avatar. Il y a un attachement, il y a une histoire qui se construit de jour en jour. Le serious game est une expérience. C'est pour ça qu'au fond, de plus en plus, on se rend compte que là où le domaine où le serious game est le plus important, c'est le domaine de la formation en relations humaines. Qui est une approche très pédagogique et tout à fait intéressante puisqu'il me permet de redevenir acteur de ma formation, de manipuler une information, donc de me l'approprier et d'une certaine manière d'activer la motivation de par cette courbe d'apprentissage qui est propre aux jeux vidéo et en effet de pouvoir me tromper sans être forcément sanctionné et de pouvoir recommencer. Ce qui est très compliqué, en effet, c'est de se dire qu'on pourrait créer un jeu qui correspondrait à une forme de sémiologie très précise d'un type de pathologie. Sparks, inventé par une université néo-zélandaise, a imaginé un jeu vidéo pour les adolescents dépressifs. Génial. C'est carrément quelque chose d'étonnant. Alors, j'ai vu le jeu. C'est très embêtant parce que ce qui se passe, c'est que c'est un peu à l'image des espaces de simulation pour les thérapies cognitivo-comportementales qui travaillent par cette forme de désensibilisation. C'est-à-dire, en fin de compte, l'idée, c'est la confrontation à une situation qui finalement, peut-être petit à petit, me désensibiliserait. Ayant affaire à beaucoup d'adolescents en dépression, chacun a une histoire très particulière. Et c'est là où se situe la richesse de notre clinique, c'est qu'il n'y a pas un type de dépression et une raison pour lesquelles. Alors c'est vrai qu'on peut se dire que, au fond, il y a l'idée de se dire que parfois le jeu vidéo peut être un excellent antidépresseur, parce qu'il me permet de pouvoir gagner, de pouvoir jouer avec mes pulsions agressives, mon sadisme, et c'est pas mal, mais on en voit les limites. Puisque je reçois parallèlement des jeunes qui ont des problématiques d'addiction, et l'addiction étant une conduite antidépressive. Mais c'est vrai que la question du déterminisme, de se dire on va soigner tel type de pathologie avec un jeu précis, à la limite je trouve l'idée intéressante, puisque moi-même, il y a quelques années, j'ai travaillé sur un serious game online, c'était une expérience qui durait 9 mois, avec des adolescents et des enfants souffrant de surcharge pondérale et d'obésité, parce que j'en ai tellement reçu que j'ai en effet pu me rendre compte qu'il y avait un schéma familial qui se répétait, qu'il y avait des typologies tout de même dans les interactions, et qu'à partir de ce moment-là, il était pourquoi pas envisageable de créer un monde métaphorique où j'ai imaginé des dieux bouches qui finalement seraient des sortes de figures, aussi même de l'idée que dans un jeu vidéo, je détaille légèrement, c'est qu'en gros, on pourrait se dire que dans des jeux comme Age of Empires, il y a toujours ces deux phases qui sont la construction du camp, le renforcement des défenses. On pourrait se dire que ça ressemble quelque part au corps obèse comme un corps qui vient le protéger. Pourquoi pas même, au fond, l'idée d'une carapace. Et que finalement, dans le jeu, il serait pourquoi pas envisageable de les mettre en situation où ils doivent quitter le camp pour pouvoir symboliquement transformer cette carapace en armure d'attaque. Parce que très souvent, ils sont aussi pris dans une culpabilité archaïque, orale, entre autres, terrible. Donc on peut imaginer qu'il est possible de métaphoriser. Le gros souci, comme par exemple Ré-Mission, qui était un jeu destiné aux adolescents cancéreux, qui avait vocation, pourquoi pas, des soigner, c'est que c'est trop réaliste. Je rentre dans un corps humain, je tue des cellules cancéreuses. On est dans un univers beaucoup trop réaliste. Alors que en tant que psychanalyste, ce qui nous intéresse, c'est la métaphore. Et c'est le ça. Et ce qui se passe dans ces topics-là, c'est tout sauf réaliste. C'est pas du figuratif. Et c'est peut-être là où se situent encore les limites. Au fond, bon, je me réfère évidemment à Winnicott lorsqu'il nous dit qu'un bon jeu, c'est un jeu où il y a du game, du play. Et alors, il dit une troisième chose très intéressante, c'est qu'il faut que l'objet nous résiste. Le jeu vidéo, dans ce qu'il est véritablement à l'image de cela. C'est-à-dire qu'il y a le game, l'enjeu. C'est-à-dire que pour avancer d'un point A à un point B, il faut. C'est là où se situe le jeu. C'est l'étape, c'est le level. Et le play, c'est plus compliqué parce que c'est le plaisir de jouer. Et le plaisir de jouer, ça dépend des jeux. On va peut-être plus le retrouver, évidemment, dans certains RPG. Je pense entre autres à un jeu auquel j'ai joué dernièrement qui est splendide, qui s'appelle Witcher 3, qui est incroyable, mais aussi comme Ico, où finalement à des moments on se retrouve à avoir le plaisir même de découvrir l'endroit où on est. Beaucoup de jeux, la tendance actuelle, c'est de mettre trop de game. Et c'est pour ça que moi je suis un peu embêté dans cette société qui justement finalement nous propose d'être tout le temps dans l'idée qu'il faut gagner. Voilà. Maintenant, c'est évident que j'ai moi-même sorti un jeu là bientôt qui va sortir officiellement en septembre, qui s'appelle Où est Alice, et je me suis battu avec les gens de l'agence parce qu'ils voulaient mettre du scoring et voulaient mettre des game over. Je leur ai dit ça n'a aucun intérêt. On n'est pas là pour gagner ou perdre. On est là pour vivre une expérience, et là, à ce moment-là, on est plutôt dans le play. Et c'est vrai que j'ai une tendance de plus en plus, dans ma réflexion, à vouloir aller du côté du play. Alors, le terme d'implicit games est un terme que j'avais imaginé il y a quand même pas mal d'années, parce qu'au fond, moi, j'ai utilisé des jeux vidéo qui étaient explicites, mais j'y repérais des contenus totalement implicites. Et c'est ça qui m'intéressait. J'ai eu l'occasion une fois de travailler avec Ubisoft pour un jeu où ils m'ont demandé, en tant que spécialiste un peu des adolescents, d'imaginer avec eux ce que seraient les monstres adolescents. On est dans quelque chose d'étrange, c'est-à-dire voilà, de réfléchir, est-ce que des adolescents ont plus peur d'un type de monstre que d'autres dans le grand processus adolescent ? Bon, c'est compliqué comme histoire. Donc c'est vrai que le graphisme, le gameplay, c'est quelque chose qui est assez implicite, idéalement. Le gameplay, par exemple, au fond, cette capacité à un moment à intégrer une jouabilité, j'appuie sur tel bouton, mais en plus, le sens que je vais y donner. Évidemment, avec Ico, c'était splendide. C'est-à-dire cette forme d'étayage numérique sur une manette, où quand je prends la main d'Yorda, je ressens son cœur battre. Et justement, pour faire le lien avec l'empathie, Ico est un jeu incroyable qui, pour la première fois, a proposé de l'empathie. Au jour d'aujourd'hui, les Empathy Games existent, il y en a quelques-uns, et je dirais que c'est une voie où j'ai envie d'aller. Je crois que c'est peut-être assez politique ce que je vais dire, mais je trouve qu'au XXIe siècle, notre combat, ça serait justement d'aider les êtres humains à être plus empathiques. C'est triste de se dire qu'on a pourquoi pas besoin d'expériences vidéoludiques pour favoriser cela. Mais lorsqu'on joue à Ico, on s'attache énormément à Yorda, la princesse. Elle est fragile, on a envie de l'aider. Et je sais que ça a pu aider beaucoup certains de mes patients. Parce que lorsqu'on est trop narcissique, lorsqu'on est dans cette souffrance narcissique, on a du mal à voir l'autre. L'autre même est un enfer. Donc on a peur de lui. Et donc c'est comment, étonnamment, une expérience immersive d'une narration me permettrait de mieux comprendre ce que ça veut dire quand je suis à la place de l'autre. Et donc j'ai eu l'occasion, dans le cadre du salon de la réalité virtuelle au 104, à Paris, de tester une expérience qui m'a bouleversé, où j'incarne un réfugié syrien pendant 10 minutes. Alors, j'ai des parents réfugiés, donc c'est vrai que j'avais déjà en moi cette histoire, et à partir de cette expérience, comme souvent il nous arrive dans notre vie, des effets de rencontre qui font qu'on a envie de se lancer là-dedans, et je compte en effet créer une association qui s'appellerait Empathic Games, et qui tenterait de réfléchir, de travailler avec des créateurs, des psys, sur qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme jeu qui aurait pour vocation, à des niveaux très différents, à mieux aider les jeunes peut-être à prendre conscience de ce que ça veut dire lorsqu'on est un autre. Ayant expérimenté les fameux casques à réalité virtuelle, et c'est que dans l'expérience que l'on peut se demander à quel point il y a une puissance immersive qui va évidemment bien au-delà du jeu vidéo, jouer sur grand écran, jouer sur téléphone. J'ai envie de dire très simplement, l'ARV me propose une chose, c'est de regarder en arrière. Je crois qu'on ne peut jamais regarder en arrière dans un jeu vidéo. Je crois que cette idée d'être dans un monde dans lequel on peut se tourner fait qu'il y a... D'ailleurs, on le voit, la plupart des utilisateurs regardent un peu partout. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'une forme de méta-illusion. Ce n'est pas simplement une relation de cause à effet, c'est une relation d'effet de cause à effet. C'est-à-dire qu'au fond, on est pris soi-même dans une illusion qui est presque plus forte que nous. On n'est pas simplement dans quelque chose où on aurait le contrôle. Et c'est vrai que c'est une expérience qui pourrait presque se rapprocher d'hypnose, que j'ai eu moi-même aussi l'occasion de tester, où il y a une sorte d'état modifié de conscience, non pas après coup, mais dans le coup, c'est-à-dire au moment où on le teste. Il y a encore des défauts. Je ne parle pas de la vitesse des images, puisqu'on sait que ça donne des motion sickness quand elle est trop importante, mais une chose que moi j'ai pu repérer qui moi m'a énormément gêné, c'est tout simplement le fait qu'on ne voit pas son corps. La plupart du temps, on ne le voit pas. Et donc, c'est très gênant. Parce que ça vient, pour le coup, nous enlever ce travail d'artefact qui finalement nous montre ses limites. Alors, on va imaginer que il sera possible, on peut le voir déjà, où il y a des prolongations de la main, mais c'est encore très faible. Les manettes, en effet, proposent, mais... Et puis là, il y a quelque chose qui manque. En tout cas, peut-être qu'il faudra imaginer encore des choses, et c'est peut-être plus cette histoire du haptique. Je crois qu'il y a quelque chose tout de même qui est essentiel, et qui existe encore avec le jeu vidéo, ou même avec les écrans tactiles, si on y joue, c'est pouvoir toucher. Et je crois que c'est ça qui manque, c'est-à-dire que c'est quand même le toucher qui va venir confirmer l'expérience que l'on vit. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on aura réussi à trouver les technologies nécessaires, il est évident que, à l'image du holodeck, qui était donc la salle de simulation dans Star Trek, qui m'a toujours impressionné, il sera sûrement possible de vivre toutes sortes d'expériences. Et évidemment, en tant que clinicien ou peut-être créateur, d'imaginer, moi qui ai une formation de cinéaste, le fait que tout d'un coup, on pourra aller bien au-delà d'être spectateur, voire même on sera acteur, voire même on pourra être un des éléments nécessaires du scénario, ce qui souvent dans les films ou dans les jeux vidéo, je veux dire, se fait souvent par des séquences d'animation. Mais on se retrouve spectateur. Donc il y a quelque chose de ce passage entre le fait d'être véritablement à l'intérieur d'une histoire, et je trouve qu'en termes de challenge artistique, c'est tout à fait fascinant, c'est tout à fait génial. Lorsque je joue à un jeu comme Candy Crush, sur mon téléphone, il y a un pouvoir d'immersion impressionnant. Je suis parfois trois bonbons qui disparaissent. Je ne vois plus ce qui se passe autour. Et c'est vrai que ce processus d'identification à l'avatar, même si ce sont des bonbons, est aussi puissant, d'après moi, que dans l'expérience du lecteur. Et c'est très compliqué d'expliquer cela, parce que très souvent, on est encore pris dans des formes d'idéologie, d'opposer, comme on faisait la lecture à la télé. Alors là, la lecture et le jeu vidéo, n'en parlons même pas. Donc c'est vrai que on pourrait prendre la métaphore, l'idée, lorsque je lis un roman qui me décrit un château, parfois le narrateur va le décrire un peu, mais à un moment, je me balade, et je me fais balader par le récit de l'auteur. Je l'imagine. Lorsque j'arrive devant un château dans un jeu vidéo, et si les gens qui ont inventé le jeu me donnent la possibilité d'être dans un jeu un peu bac à sable, eh bien je vais me raconter l'histoire, parce que je vais l'envisager sous énormément d'angles différents. Je vais même pouvoir visiter les pièces. Et donc je vais me raconter ma propre histoire. Avec le fait qu'à un moment, il y a un personnage dans le château, à l'image du narrateur qui a inventé un personnage que l'on va croiser. Donc je crois étonnamment que le jeu vidéo se rapproche beaucoup plus de l'expérience littéraire du lecteur que l'expérience du spectateur au cinéma. Parce que les processus d'identification, d'après moi, sont primaires. Je suis l'avatar comme je suis le narrateur. Donc c'est vrai que au cinéma, les processus d'identification sont souvent secondaires. J'ai les traits, j'aimerais être comme, etc. Et ça ne veut pas dire qu'on peut évidemment pas penser qu'il y a des dimensions dans un film ou même dans un livre qu'on ne pourra jamais forcément exprimer dans un pur jeu vidéo. Par contre, l'expérience que j'ai vécue avec ce réfugié syrien pendant 10 minutes, au début, la mise en scène nous montre qu'on ne sait pas trop si on est dans un film ou dans un jeu. Sauf qu'à un moment, on nous demande, un des protagonistes qui est là, nous demande de conduire le bateau. Et là, à ce moment-là, on se rend compte qu'on n'est pas simplement spectateur, parce qu'on entend la voix au début du narrateur. Donc il y a beaucoup de choses à imaginer. Mais c'est un vrai souci, parce que lorsque je rencontre des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, et puis je dirais que moi-même, maintenant, j'ai la chance de pouvoir en faire, très souvent, ils me disent « Ah, mais ça, on connaît pas. Ton jeu ressemble à quoi ?» Et ça, c'est un gros souci. À l'image, lorsque j'étais étudiant en cinéma, on avait des livres qui nous disaient comment écrire un scénario, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Eh bien, tout est possible. Je trouve ça totalement assez scandaleux que les gens eux-mêmes du jeu vidéo s'enferment. Et au-delà des empathy games, il y a maintenant ce qu'on appelle les indie games, les jeux indépendants, et on commence à voir des choses totalement géniales. C'est-à-dire des expériences comme Flowers, comme Journée, où tout d'un coup on ne sait pas où on va. Pas vraiment. Et je crois que c'est aussi l'idée que le jeu vidéo dans sa culture en elle-même se doit de muter, de maturer. Et peut-être même le jour où on aura un vrai jeu vidéo érotico-pornographique, ce sera aussi une avancée. Mm-hmm. Parce qu'il faut que, d'une certaine manière, ça soit, à partir de cela, qu'on prenne des risques, comme pour n'importe quel autre produit culturel. Au début des jeux vidéo, dans les premiers jeux qui ont tenté de faire des choses un peu plus, il y avait beaucoup de jeux à histoire. Je me souviens que j'avais joué à un jeu qui était inspiré des mondes de Lovecraft. Ouais. Donc c'était un jeu qui mettait en scène Lovecraft, et finalement on était dans une vraie narration. Et puis il y a eu, quelques temps après, des jeux qui étaient Si Versailles m'était compté, Le Louvre, etc. Ouais. Et ces jeux-là n'ont pas eu beaucoup de succès. Et je dis ça parce que je travaillais avec quelqu'un qui faisait ces jeux-là. C'était donc à l'époque une grande société qui faisait ce type de jeu. Il m'a dit, lorsqu'on parlait du jeu, parce qu'il me disait, non, il faut du game, c'est ça qui est important. Il a dit d'ailleurs, moi j'ai fait ces jeux-là, ils n'ont jamais marché. Mais il a décontextualisé les choses. On était dans les années 80, 90. Les gamers, c'était des ados. Et les ados n'avaient pas franchement envie de jouer à Civ Versailles, m'était compté. À l'heure actuelle, les gens ont vieilli, ont maturé. Et ils ont peut-être envie aussi de retrouver un autre type d'expérience qui ne soit pas simplement celle de bien viser ou de bien sauter. Est-ce que c'est du jeu vidéo ou du cinéma? Alors, Sony soutient ce type de jeu. Ils veulent être à la croisée du cinéma et du jeu vidéo. J'ai joué à Heavy Rain, c'est très intéressant. C'est très intéressant comme expérience, mais on est encore beaucoup dans quelque chose d'un entre-deux où finalement on se demande mais pourquoi il fait-il pas tel choix. En gros, on a du gameplay pour se laver les dents, pour boire un verre, c'est un peu inutile. Mmh. Ou alors il faudrait que ça soit plus intuitif. Ou alors de se dire j'ai peut-être pas envie de me laver les dents ce matin, mmh. au risque d'avoir des soucis dans la journée. Mais ce qui est vrai, c'est que oui, il y a en effet des tentatives d'être plutôt du côté de la narration plutôt que, au fond, d'être du côté de la simplement du game pur. Quoi. Au fond, on va dire que l'empathie, c'est vrai, est un concept. Qu'on utilise beaucoup d'ailleurs dans le domaine du soin, entre autres infirmiers. C'est un des termes les plus utilisés qui voudrait dire que lorsque je fais un soin au fond à un patient, je me dois idéalement de ressentir ce qu'il pourrait ressentir. Donc on est dans une forme d'identification projective qui correspond d'une certaine manière à ce que Melanie Klein a appelé la phase dépressive. C'est-à-dire lorsque le bébé prend conscience qu'il y a un autre. Et souvent, il en a peur, d'ailleurs. Hein. Et quelque part, il, en même temps, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ça ne se passe pas? Eh bien, la personne continue, d'une certaine manière, à garder l'illusion que l'autre, c'est soi. Et finalement, il grandit et il se rend compte dans sa vie de tous les jours que non. Et que même cet autre peut devenir un enfer, et qu'il peut même, au fond, le refuser, cet autre. Et lorsqu'on évoque peut-être que l'empathie serait peut-être un des combats du XXIe siècle, ce n'est pas l'empathie qui est manquante, c'est finalement ce qu'on observe, nous, en tant que cliniciens, c'est que les pathologies dites narcissiques sont partout. Et que donc cette fragilité viendrait, évidemment, d'interactions qui ont été compliquées. Et que beaucoup de mes patients, je suis obligé à un moment de leur rappeler l'autre et de rappeler qu'il y a un contexte et ce qu'on appellerait la fameuse relation d'objet. Cette relation d'objet avec ces patients-là, elle est nécessaire. Et je viens lui montrer que finalement, cet autre, il a aussi une pensée. Qu'il n'y a pas que lui qui a une pensée. C'est ça l'empathie. Finalement, c'est d'aider nos patients, peut-être, à pouvoir saisir à quel point il y a un autre. Alors, le psychanalyste est le premier hôte, mais parfois, comme nous dit un grand psychanalyste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Heinz Kohut, il dit avec ces pathologies-là, ce n'est pas un transfert névrotique habituel, le père, la mère. C'est ce que lui, il appelle les transferts en miroir, les transferts idéaux. C'est-à-dire qu'on disparaît, on n'est plus vraiment dans cette dimension d'un transfert névrotique, constitutif. Mon utilisation des jeux vidéo m'a montré comment il est possible, à travers une forme de médiation, non pas d'accélérer le processus, mais quelque part d'être dans quelque chose qui serait une sorte d'acte à valeur symbolique, alors que acte et symbolique, en général, ne vont pas ensemble. La Torah dit « agis et tu comprendras après ». Beaucoup de nos patients sont très inhibés parce qu'ils ont peur. Et finalement, je pense que l'idée d'imaginer une expérience, et non pas un jeu, mais une expérience, où finalement l'autre prendrait conscience de ce que ça veut dire s'il affrontait non pas la peur de tomber dans le vide, non pas des chats, mais quelque chose de beaucoup plus abstrait qui serait cet autre. Alors, j'ai imaginé des choses qui seraient pas du tout réalistes, à l'image de ce que j'ai évoqué dans ce jeu où je suis un réfugié syrien, et quelque chose qui serait peut-être, au fond, du côté, peut-être de ce que le bébé pourrait se représenter dans un souvenir très lointain, c'est-à-dire des formes. des formes, des couleurs. Et comment il est possible, par contre, dans une narration avec une voix off, qui raconterait l'histoire que je suis une boule jaune et que j'ai un grand ami qui est une boule bleue et que nous avons grandi et que finalement, avec les années, eh bien, cette boule bleue est devenue très différente de ce que j'ai connu. Et d'une certaine manière, comment je peux retrouver cette boule bleue sans avoir peur qu'il me... parce qu'il était dans un camp opposé. On va dire que je n'ai pas encore terminé l'histoire, mais finalement, d'imaginer qu'on peut peut-être toucher avec beaucoup plus de puissance cette question-là. Et j'ai presque imaginé l'idée que je serais un ectoplasme, un corps, que peut-être je pourrais percevoir le fait que je suis dans une boule jaune. Et qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup je me mêlais à une boule d'une autre couleur? Et à quel point est-ce que peut-être deux couleurs complémentaires donnent une nouvelle couleur? Et derrière, c'est vrai qu'on est dans quelque chose qui est finalement de prôner la mixité, de prôner le fait qu'au contraire, l'autre peut nous enrichir. Et que d'une certaine manière, il ne s'agit pas de se rassembler et de se ressembler à tout prix, mais que peut-être c'est dans nos différences qu'on peut se rassembler. Elles sont rares, elles sont terriblement rares, ces expériences où finalement j'en ressors d'une certaine manière, peut-être même avec une perception différente du monde. Mais c'est vrai qu'à nouveau, je pense à celui qui a fait ICO, puisqu'il a fait un autre jeu juste après qui s'appelait Shadow of Colossus, auquel j'ai joué. Et c'est un jeu... alors, C'est un game designer que je trouve fascinant, parce que quand même, dans le gameplay, il y a toujours quelque chose, il y a justement ce fameux implicit game, c'est-à-dire que je suis, au début du jeu, un jeune homme qui tient une femme morte, et pour la ressusciter, je dois tuer des colosses. Mais je suis dans un pays totalement vide. Ça veut dire que la seule personne vraiment qui est présente, c'est cette jeune femme morte. On ne sait pas qui c'est sa sœur, sa femme. Et les dieux lui disent, voilà, pour qu'elle revive, tu dois tuer tous les colosses. Mais finalement, les seuls êtres vivants dans ce monde-là, ce sont les colosses. Ouais. Et petit à petit, on commence, parce qu'ils sont très beaux les colosses, ils n'ont rien demandé, et on commence à éprouver une vraie culpabilité. Et d'ailleurs, il l'a mis en scène puisque le personnage s'assombrit. Et c'est vrai que voilà, il y a quelque chose de cet ordre qui fait que... Mais en même temps, là où ça devient compliqué, c'est qu'il est obligé de faire un vidéo game. Ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps à tuer le colosse. C'est-à-dire qu'ils sont très durs à tuer, les colosses. Et il y a un moment où on n'est plus que dans la virtuosité du gameplay. Mais peut-être que c'est cette difficulté-là qui va me permettre d'éprouver encore avec beaucoup plus de puissance le fait que je me tue à tuer ces colosses, alors que finalement, ils sont beaux, et tout ça pour ressusciter qui? Donc c'est vrai que, voilà, il y a des moyens, et je pense que c'est là où vont se différencier les grands créateurs, qui vont justement, évidemment, envisager autrement l'expérience du jeu vidéo, où, disons les choses, où on sent bien que le scénario n'est pas de la séquence d'animation, comme souvent ça se passe, mais véritablement dans l'histoire que je me raconte. Et ça, c'est vrai que c'est rare. Il faut savoir que les jeux qui se vendent, le jeu qui se vend le plus, c'est quand même un jeu de foot. C'est là où en effet, le jeu vidéo fait partie de ce qu'on appelle de l'industrie des loisirs. Et le sport est un loisir aussi. Je dirais qu'on se rend compte que finalement, c'est là où va se situer l'histoire personnelle de l'individu dans la manière d'accepter ou non de perdre. Je dirais que il y a, d'ailleurs plus dans le rugby, des gens qui parlent du fait que c'est un sport de gentleman. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même si on a perdu, on l'accepte parce que c'était un beau jeu et on félicite l'adversaire. J'ai rarement vu ça dans le foot. Quand je vois les grands matchs, hein, on peut aimer jouer un jeu sans forcément gagner parce que, au fond, on a passé du bon temps et que ce n'est pas dramatique. Mais c'est là où, en effet, ça vient révéler ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au fond, on est quand même dans une société où on ne valorise pas le fait de perdre. Il faut gagner. On est dans une société où l'idéal de la performance et de la réussite à tout prix est érigé comme une norme. Et c'est une des raisons pour lesquelles le jeu vidéo, pour beaucoup de gens, va être un espace où enfin ils vont pouvoir gagner, parce que dans leur vraie vie, ils n'arrêtent pas de perdre. Mmh. Donc on a besoin de se réparer, évidemment, narcissiquement, mais en même temps, on pourrait se dire que c'est à l'image aussi de tous les jeunes que moi je reçois pour des problématiques d'addiction, qui sont des compétiteurs dans l'âme, qui ne supportent pas l'idée de perdre. Et là où se situe mon challenge, c'est de les aider à accepter l'idée de perdre, ce qui en soi ne veut pas dire qu'on s'effondre forcément. Voilà, on va dire que je crois que c'est pour ça que la psychanalyse, dans ma vocation, dans la vocation de ce que ça veut dire, c'est-à-dire être libre, mais la liberté implique de perdre. Et finalement, j'ai tendance à penser que certains jeux vidéo, alors il m'arrive d'en jouer parce que parfois j'ai envie aussi de découvrir des nouveaux jeux, et puis parce que ça fait du plaisir, ça fait du bien de gagner aussi à certains moments. Néanmoins, j'ai envie d'imaginer une nouvelle génération de play game, ou de vidéo play, où finalement on serait dans quelque chose où le plaisir de jouer l'emporterait sur l'enjeu. Et en fin de compte, lorsque peut-être l'industrie elle-même va se dire « Tiens, on va peut-être aller du côté de la culture, on va se retrouver avec un fonctionnement, en tout cas en France, qui est proche du cinéma, c'est-à-dire de l'avance sur recette, qui permet d'aider des petits producteurs à faire des films. » Et des films et des jeux vidéo beaucoup plus risqués, beaucoup plus étonnants en termes d'expérience. Mais il s'avère qu'on commence à voir ce type de choses parce que le public des gamers a vieilli et qu'il est évident que, par exemple, un jeu comme Siberia, où les dessins sont faits par Sokal, c'est un jeu incroyable, très dur, hein, mais néanmoins, c'est un jeu où l'héroïne n'est pas du tout bodybuildée, au contraire, c'est une femme simple, mais avec qui est persuadée. Et l'expérience du jeu va la transformer dans sa capacité à voir le monde autrement. Donc on commence à voir des gens. Alors c'est vrai que, évidemment, lorsqu'on regarde les chiffres, ces jeux se vendent beaucoup moins bien. Et nous sommes quand même dans l'idée qu'il faut qu'il y ait du monde qui puisse y jouer. Mais je trouve ça tout à fait excitant de se dire que le cheminement, pour le moment, il est encore inconnu. Et il y a encore tout à imaginer et tout à inventer. Et c'est là où se situe véritablement, pour moi, les choses, la nouveauté. Et lorsqu'on aime y créer et imaginer, justement, c'est toujours de relever le défi que tout n'a pas été encore inventé. Parce que beaucoup de gens qui travaillent dans le jeu vidéo pensent que tout a déjà été fait. Et c'est pour ça qu'on dit des Sims-like, des Doom-like, c'est-à-dire, au fond, être comme. Et finalement, ben, il faut peut-être se sortir de ce être comme et pouvoir envisager autrement, je dirais, le jeu vidéo. Et peut-être, en effet, on va découvrir, comme dans Journée, qui est un jeu étonnant, c'est-à-dire qu'on est dans du play. Et le game, petit à petit, disparaît. Où il n'y a pas de jauge. On n'est pas forcément dans cette idée précise, simplement, de devoir gagner, tout en sachant qu'il faut quand même aller d'un point A à un point B. Thank you.